place du palais de la Moneda. Et bien sûr, vous en doutez, au Chili, et ici c'est une fête incroyable. Il y a énormément de gens qui se regroupent, qui s'entassent avec des drapeaux du Che Guevara, des drapeaux cubains. Il y a énormément de monde, il est 18h ici et tout le monde n'est pas encore arrivé. Et bien sûr, tout cela, et bien je suis assez ému. Pinochet est mort il y a 3h à peu près, et donc c'est un truc incroyable ici. C'est l'allégresse des gens, la joie des gens.
Bonsoir, Daniel, c'est Pedro de Lyon. Je suis triste. J'écoutais, j'ai regardé M. Sarkozy à la télévision ce soir, chez Serge Moati, quand j'ai entendu que Pinochet était mort. Je suis triste pas parce qu'il soit mort, non. Parce qu'encore une fois, un assassin, un homme qui a causé autant de malheurs pour le peuple chilien, dont je suis, il vient de mourir tranquillement, assisté par ses médecins, sans payer l'énorme dette qu'il a envers le monde entier, pour toutes les tortures, les emprisonnements, les assassinats, les disparitions qu'il a causées, qu'il a provoquées. C'est dommage. La société, elle ne va pas bien. Elle n'arrive pas à faire ce qu'elle devrait faire, à punir ceux qui sont coupables comme Pinochet. Il y a plein de jeunes qui partent en prison pour des banalités, parfois moins banales. Mais Pinochet qui a massacré, qui a détruit un peuple, ben il est mort tranquillement dans son lit. Je suis triste. Allez, à bientôt. Ciao.
Le monstre est mort, soit, mais il reste à rendre justice à ses victimes.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberal. Me detendré a llorar por los ausentes.
C'est Pablo Milanes et Silvio Rodriguez qui chantent « Je foulerai à nouveau les rues de Santiago, de ce qui fut Santiago ensanglanté et je m'arrêterai pour pleurer sur les absents. » C'était Mireille Darras.
Bonjour les amis de la Bastille, j'y suis. Salut Daniel. Voilà mon premier enfant, Clément est né. Voilà, avant-hier soir, 2 kilos, c'est un prémat et... Ça se passe bien pour lui, sa maman va super bien et comment ne pas être heureux. Voilà, j'espère que ça fera du sourire à tous ceux qui écoutent en ce moment. Et à plus tard, bon courage à tous, ciao, c'était Ludo.
Oui, salut Daniel, salut France Inter, un vieux con qui écoute France Inter depuis 1972 et qui t'écoute toi. Et puis là, tu vois, je suis devant LCI, aujourd'hui nous sommes dimanche soir, il est 18h58. Et je viens d'apprendre la mort de Pinochet, comme quoi, de temps à autre, à la télé ou à la radio, on a quand même de bonnes nouvelles. Je continue de t'écouter tout le temps, dès que je le peux. Je vous salue tous et je vous dis bonne continuation.
Eh oui, Pinochet est mort et moi-même, je me sens pas très bien. je suis aujourd'hui au fond de mon lit, j'ai attrapé la crève. Mais ça donne une occasion de revenir sur le 11 septembre. 11 septembre 2003, c'était le 30e anniversaire du 11 septembre 1973, c'est-à-dire la chute d'Allende et la prise du pouvoir par Augusto Pinochet. Et nous avions à l'époque, on va les retrouver aujourd'hui, évoqué cette date fatidique avec Pierre Calfon, Alain Jox, Patrick Zachmann, Pedro Tapia, Eduardo Olivares et Patricio Toupert. Et ça va être une occasion de donner une perspective historique à ce jour qui ne l'est pas moins. Et c'est important parce que récemment, on a enterré Milton Friedman, le père du néolibéralisme. L'avènement de Pinochet est lié à la naissance de la révolution conservatrice néolibérale. C'est donc un moment très très sensible, non seulement de l'histoire de l'Amérique latine, mais de notre histoire contemporaine. Donc voilà le thème d'aujourd'hui, voilà l'émission d'aujourd'hui. Beaucoup beaucoup de messages sur le répondeur, pas seulement sur la mort d'Augusto Pinochet, mais sur d'autres sujets, dont l'épouvantable émission de vendredi.
Eh ben bonjour à tous. Moi j'appelais juste pour dire que j'en avais vraiment marre de ce Téléthon. Parce que c'est pas aux gens et encore aux pauvres, parce que c'est toujours les mêmes qui donnent pour les malades, pour n'importe qui. C'est à l'État de payer ce genre de choses. La recherche, on est en train de la décimer et on les chercheurs ils cherchent des sous, ils en ont pas, l'État ne donne plus rien. Donc en plus, le Téléthon, ben, c'est deux jours où toutes nos superbes émissions qu'on regarde d'habitude dans notre superbe télé, ben, elles n'existent plus. Tout est déprogrammé. Et en plus, j'en ai marre de voir Sophie d'avant, quoi. Elle me casse la tête et c'est tous les ans pareil. On voit Sophie d'avant au Téléthon qui est en train de nous dire payez 36-37, payez 36-37. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment se foutre de la gueule du monde. En plus, que ce soit le service public qui fait ça, ça vraiment, vraiment, c'est encore plus se foutre de la gueule du monde.
Eh ben, c'était pour dire que moi, j'ai souri en entendant le docteur, alors pas le docteur X, le docteur en biologie au chômage, parce que tout d'un coup, je me suis sentie moins seule. Moi aussi, j'ai un doctorat en biologie cellulaire, et je suis au chômage depuis 4 ans, depuis mon retour en France. Voilà, donc, petit boulot, ménage au noir, etc. Sinon, j'ai aussi souri en écoutant le docteur X, n'est-ce pas? Et j'ai souri d'un sourire émerveillé et curieux, quand même. Voilà, et ben merci pour les émissions et à bientôt. Au revoir, c'était Judith.
Non, 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 absolument pas. Il n'y a aucun rapport entre le fait d'inviter un économiste de chez Natixis et s'exposer en long, en large, en travers dans le journal de 13h. De France Inter et la campagne de publicité, voyons, de la même Natixis sur France Inter depuis quelques semaines déjà. Mais aucun rapport, comme il n'y avait aucun rapport entre le fait d'inviter la direction de la SNCF à l'époque où la SNCF communiquait à grands frais sur la même antenne de France Inter. Mais où allez-vous chercher tout ça, enfin? Oh, c'est pas possible ça, mais il n'y a aucun rapport, on vous dit aucun rapport. Ciao.
Pour les auditeurs de là-bas si j'y suis, si vous vous trouvez à proximité de Ploubalet le mardi 12 décembre à 20h, nous nous retrouvons au pénalty pour le rendez-vous des repères, enfin du repère plus précisément de Ploubalet. Donc à 20h, chez Marie et Pierrot au pénalty à Ploubalet. À bientôt.
Mais ce qui m'a le plus frappé, je crois, à cette réunion du repère de là-bas si j'y suis au poulailler de Belle, sur le sujet de l'utopie, parce que les gens aussi étaient attirés par le sujet. Eh bien, c'est qu'on était plus nombreux que dans les réunions du collectif antilibéral. Et ça, c'est intéressant, parce que, enfin, à mon sens, hein, l'analyse que j'en fais, moi, c'est que les gens, en fait, ils ont beaucoup besoin de parler, de se rencontrer, de se sentir bien ensemble, mais qu'après, quand il faut passer à la réalisation du rêve, de l'utopie, qui a des contraintes, les contraintes des règles collectives, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Et peut-être, c'est ce qui est en train de se manifester dans le développement que connaît le rassemblement antilibéral. Il y a plein de gens qui sont contre, et puis à partir du moment où ils font, enfin, contre le libéralisme, puis à partir du moment où il faut s'organiser, désigner un représentant, les différences affleurent, l'ambition personnelle réapparaît, et puis on a du mal à se mettre d'accord. Et c'est dommage. Alors peut-être que l'avenir, c'est ça, c'est une candidature là-bas si j'y suis. Donc, Daniel, prépare-toi à être le candidat de là-bas si j'y suis, à la prochaine présidentielle. Voilà, avec enfin des t-shirts, avec ton visage, des petits badges.
Oui, bonjour. Vous rendez compte, il y aurait quelques traces d'eau sur Mars. Vous rendez compte, quand je pense qu'en Afrique, il y a 2 à 3 litres d'eau par habitant. C'est formidable, il y a de l'eau sur Mars.
Au volant de mon 40 tonnes, où pas mal de choses m'étonnent, j'ai écouté Mermet et son émission sur le rectum. Au mot carotte, que certains se glissent dans leur grotte, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai failli faire battre mes tambours de frein. En effet, j'ai senti la soudaine présence des 25 tonnes de racines orangées que je transportais en toute confiance dans ma benne illuminée. Et pour confirmer ma providence, je suis passé non loin du Mont-Saint-Michel et j'ai continué à me poêler avec aisance et ai dit merci à cette émission essentielle. Mais rassurez-vous, dans mon orifice, je n'y mets que du papier, et à ceux qui aiment le vice, je leur dis, allez chier. Merci pour cette émission, et puis les routiers sont sympas, on essaye de s'occuper dans la petite cabine. Allez, salut, salut.
Concernant le retraité, les pensions de retraite, elles sont payées par les cotisations versées, les trimestres de cotisations versées pendant l'activité, non par le gouvernement. Alors avant de traiter les gouvernements d'enculés, elle serait pas mal de se regarder, parce que je crois que l'enculé à la carotte, c'est bien vous, monsieur Mermet. Alors vous feriez pas mal de rétablir la vérité. Deuxièmement, quand vous entendez critiquer Serge Moati, c'est un très bon journaliste qui fait que son boulot, et c'est un gauchiste invétéré. Alors avant de raconter n'importe quoi, réfléchissez un peu, monsieur Mermet. Allez, salut.
Dans les WC, tu me vois? J'apparais dans la cuvette, et l'odeur est mon ombre. Je viens du trou, et tu me repousses, et pourtant quand tu pousses, je suis encore là. Soulagé, tu tires la chasse. Pensif, tu me regardes partir. Oh oui, car tu oublies que je suis un quotidien qui te fait malgré tout du bien. C'est le propre de l'homme. Caca.
C'est un célèbre document. C'est le 11 septembre 1973. C'est une communication entre le général Pinochet et le vice-amiral Patricio Carvajal. Le vice-amiral Patricio Carvajal est posté en face du bâtiment et il propose à Pinochet de négocier avec le président Allende pour qu'il se rende. Et Pinochet refuse de la façon la plus cinglante. Lui qui faisait partie du gouvernement Pinochet, il refuse, il rit de façon terrifiante et il répond à Carvajal, au vice-amiral, il lui dit, on laisse partir Allende à l'étranger, et il dit exactement, on le sort du pays et l'avion s'écrasera ensuite au cours du vol.
Flores, el ex ministro Flores, Gregorio, el secretario del presidente, manifestando su intención de salir por la puerta de Morandé 80 para rendirse. Se les ha indicado que deben salir enarbolando un trapo blanco para cesar el fuego. La idea es nada de parlamentar, sino que tomarlos presos inmediatamente.
Y otra cosa, Patricio.
Ni una cosa, te tomas ese río de aviones y partes.
La idea sería tomarlos presos nomás por el momento. Después se verá si se les da avión u otra cosa, pero
Por el momento la idea es tomar los presos. Carlos, pero es que si los juzgamos le damos tiempo, es conveniente, lo que creo y motivo para que tengan una herramienta para llegar. Por último, se pueden levantar hasta las pobladas para salvarlo. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a la cara a cualquier parte. Y por último, en el camino lo van tirando abajo.
Il faut se rappeler une chose qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que Pinochet a toujours été un peureux. Il a été peureux au moment du coup d'État, c'est pas lui qui a eu l'idée du coup d'État, c'est la marine. Et la marine qui lui a mis le marché en main, il s'est décidé 3 jours avant seulement. Il a été peureux, et comme on dit en espagnol, para hacer mérito, il a essayé ensuite d'en rajouter pour récupérer le prestige qu'il n'avait pas aux yeux des autres chefs d'armée, en étant encore plus féroce et en éliminant ensuite les autres corps d'armée. Il a été peureux lorsqu'au moment où il est revenu de Londres, il s'est arrangé pour que ses avocats disent qu'il y avait une démence modérée, comme quoi il a échappé par manque de dignité. C'est pas du tout un homme courageux. Pinochet a toujours été un peureux.
Salvador Allende, c'est Daniel Mermez et la page s'y suit.
Flight number 2, arriving from New York.
Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a usted, no importa. Lo seguiré anocheando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que será el nombre mío, que fue leal a la
ley.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Alors un document bouleversant, c'est les dernières paroles de Salvador Allende. Dites à la radio, et cette radio effectivement allait dans les minutes qui ont suivi ces paroles être prises par les militaires, par la junte militaire. Pierre Calfon.
Oui, réaction sur ces paroles. Je me souviens très bien, j'avais griffonné à la hâte, j'ai écouté, j'étais accroché à ma radio ce 11 septembre 1973 et j'ai griffonné tout de suite quelques phrases de Allende, et j'ai retrouvé d'ailleurs ces notes récemment. J'avais été frappé par le côté prémonitoire que de cette fin tragique, lorsque en 1971, à l'issue du voyage que Fidel Castro avait fait au Chili en novembre 71, la visite de Fidel Castro devait durer 8 jours, elle s'est étirée sur près de 3 semaines, ça avait provoqué l'hystérie complète anticommuniste de la droite, etc. Des locaux du Parti communiste avaient été mis à sac, et c'était la première marche des bourgeoises qui sont descendues dans la rue en tapant sur des casseroles. Mmh. Et à ce moment-là, Allende, devant Fidel Castro au Stade National qui allait devenir ensuite le camp de concentration qu'on connaît, avait dit « Je ne sortirait de la Moneda que criblé de balles. » Et c'est en écoutant cette dernière péroraison de ce dernier discours que j'ai repensé à ce qu'avait dit Allende en 1971. Une toute petite remarque, on traduit en général très mal en français ce discours. Mm-hmm. On dit « trabajadores de mi patria », « travailleurs de ma patrie ». « Abriran, más temprano que tarde, abriran », plus tôt que tard, vous ouvrirez les grandes avenues par où passe l'homme libre. Tandis que, en général, on traduit s'ouvriront les grandes avenues, comme si elles allaient être ouvertes par l'opération du Saint-Esprit.
Patricio, tu père, vous étiez là, vous avez entendu ce discours, vous étiez à Santiago ce jour-là.
Oui, j'étais à Santiago ce jour-là, et c'est un jour tout à fait particulier. Et à 5h du matin, et ma sœur entend les tanks passer par une avenue Providencia, qui est une des principales avenues de Santiago. Et il me réveille, il me dit, écoute, il faut que tu te lèves, parce que là, il y a quelque chose qui va se passer. En fait, je me lève et je téléphone José Toa, un grand ami, qui était le vice-président du Chili, ministre de l'Intérieur. Et il dormait, c'est Maureen Toa, Maureen Toa, sa femme, qui me répond, me dit, es-tu sûr que c'est grave? Il dit, c'est sûr que c'est grave. 10 minutes plus tard, téléphone, et dit, on se retrouve à la Moneda. Puis, on descend, il était 8h10, 8h15.
Qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi votre fonction à l'époque, Patricio?
J'étais chroniqueur à un journal d'Ultima Hora et chef du département des communications du ministère de l'Habitat et du Logement. Mm-hmm. Donc, je m'adresse, je vais vers ma voiture, je prends ma voiture, je prends la radio, enfin, j'allume la radio. Et à la place Italie, on pouvait plus circuler. La place Italie, c'est grosso modo à 2 kilomètres du palais de la Moneda. Mm-hmm. Je laisse ma voiture et je marche. J'avais un transistor quand même et je suivais les différentes émissions qui racontaient ce qui s'est passé, mais personne ne savait ce qui réellement s'est passé. Mm-hmm. Je me demande même qui savait à ce moment-là ce qui s'est passé. Donc c'est périple que je fais, je n'arrive pas à la Moneda. Et je reste bloqué face au ministère des Ordres publics. Et où je suis resté là, enfermé, jusqu'à un moment où les bombardements s'est produit. Donc, et j'ai pu, grâce à 3-4 militants enfermés et au sous-sol, et on ne savait pas, il y avait, et je l'ai appris hier, il y avait des camarades socialistes qui étaient en haut du ministère des travaux publics. Et ce sont ces mêmes militants, j'ai entendu la fusillade, et on le voit dans un film, où tous ceux qui sont sortis de la Moneda, qui sont mis à plat ventre sous la sol, en face de la Morande Ochenta, ça veut dire la porte présidentielle, qui aujourd'hui va être ouverte par le président Ricardo Lagos, devant cette porte, ils ont mis un temps. Devant les militants qui étaient à plat ventre. Et c'est ces militants qui étaient au ministère des Travaux publics qui ont empêché que les temps passent sur ces militants qui étaient aux côtés d'Allende jusqu'à ce moment-là.
Pedro Tapia, vous étiez où, vous, ce jour-là?
J'étais chez moi. J'habitais à 300 mètres de la Moneda. Et vers 7h30, il y a ma belle-mère qui habitait dans le même immeuble qui descend et me dit « Pedro, ne pars pas ». Et il se passe quelque chose. J'étais encore au lit, c'était 7h30 du matin. À l'époque, j'ai fait des études à l'université en sciences économiques. Bien sûr, je me suis levé, j'étais responsable, j'étais le délégué du FER, du FER, le Front des étudiants révolutionnaires, dans cette faculté. Je me suis levé et j'ai fait comme j'avais fait le 29 juin. Faut pas oublier que le 29 juin, il y avait eu déjà une tentative de coup d'État. Ces jours-là, j'étais sorti de chez moi et j'étais arrivé jusqu'à l'Alameda sans aucun problème. Donc je sors, je prends ma voiture et j'essaye de passer et dans une large rue qui débouche sur le palais de la Moneda, où il y a le ministère de la Défense, je vois les militaires avec leur foulard orange au cou qui m'arrêtent et qui me font faire demi-tour. Donc je rentre à la maison, j'ai dit à ma femme, tu bouges pas. Elle était secrétaire du doyen de l'école d'ingénieurs à l'époque. J'ai dit, tu bouges pas, tu restes ici avec la petite. On avait une fille qui avait à l'époque 7 ans, 6 ans. Et j'ai pars à la fac des sciences économiques où je me suis retrouvé avec mes camarades. Mais j'étais le seul responsable des élèves présents. Les autres, ils étaient dans d'autres endroits. Et on a essayé de... Tu vois ce qu'on pouvait faire? Mmh. On a piqué de l'alcool, des histoires de fous, hein, dans un bâtiment qui était au milieu. Aujourd'hui, c'est une caserne, hein. Mais à l'époque, il y avait un institut de recherche et on a cassé une vitre, on a récupéré de l'alcool dans le cas où on a mis des camarades sur les toits pour regarder, pour surveiller, jusqu'à ce que les policiers qui avaient un commissariat juste en face de la fac soient venus nous dire, ben, vous faites descendre vos copains. Ils étaient très sympas d'ailleurs, hein. Mm-hmm. Et parce que la chose devient dure. Et vers 1h30, on passe le détail, hein, parce que il y a trop de choses à dire. Et vers 1h30, ils reviennent, ils disent, allez les mecs, partez, parce que les choses se compliquent. Et je suis rentré chez moi, avec l'ordre à chaque membre, à chaque camarade de l'école de garder un numéro de téléphone. On a tout nettoyé, on a déchiré tous les papiers, tout ce qui pouvait créer des problèmes, et chacun a gardé un numéro de téléphone en tête et on est parti. Et j'ai pas bougé de chez moi pendant 2 jours puisqu'il y a eu le couvre-feu, et c'est vers 4h l'après-midi que la nana de ma fille m'a appelé pour m'aider. Elle travaillait chez des Bourges à l'époque. M'ha appelé pour me dire que Allende était mort.
Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden.
Entendido, digo perfectamente, cambio.
Eduardo Olivares, qui est journaliste, vient de nous rejoindre. On est en train d'évoquer, vous avez compris, évidemment, ce jour-là, vous étiez à Santiago?
J'étais à Santiago aussi, et le souvenir que j'ai en entendant parler mes camarades, j'étais aussi dans le centre de Santiago, et j'ai vécu de près le bombardement de la moneda, de la rue. Donc je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'était fort. La seule image qui me reste, c'est celle de femmes qui voulaient courir vers le palais de la moneda en disant « ils vont le tuer ». Et puis le bombardement est venu, on s'est embrassés tous les trois, on pleurait. Et puis c'est des femmes que je n'ai plus jamais vues, évidemment. C'était juste un instant. Mais il m'est venu une autre image, c'était celle qui était produite par le fait qu'il y avait le couvre-feu qui avait été décrété autour de 13h, 14h, je ne me souviens plus, mais quelque chose dans ce genre-là. Et le bombardement, tout s'était terminé vers midi à peu près. Et les gens qui avaient eu le temps d'aller vers le centre de la ville devaient rentrer chez eux avant 14h. Or, c'était un jour où il y avait une grève et une paralysation complète des transports en commun. Et donc, à partir de, je dirais, de 13h, il y a une sorte d'exode qui s'est produit dans un seul sens, évidemment, c'est le sens vers les quartiers résidentiels pour quitter le centre de la ville, dans un mélange très curieux. Ça faisait un peu genre ville dimanche après-midi. C'est une ville morte, mais avec plein de gens. Ville morte pour le silence, ville morte pour une sorte de geste minimum que les gens faisaient, et tous en train de marcher, tous en train d'apprendre un peu ce qui venait d'arriver. Parce que je crois que l'une des premières impressions, et les plus grandes, c'est qu'on est en train de vivre quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. On avait beaucoup discuté, on avait beaucoup palabré sur la possibilité d'un coup d'État, on avait lu beaucoup sur d'autres... Mais tout cela, c'était au niveau du politique, de l'analyse. Mmh. Mais là, c'était dans le vécu, et là, c'était la première chose, c'était... Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Je voudrais qu'on essaye, on s'était promis avant de commencer d'être pédagogique et didactique, je voudrais qu'on essaye de résumer ce que furent les 1000 jours de Salvador Allende. C'est de 70 à 73, cette expérience quand même unique. Il y a eu d'autres fronts populaires en France, en Espagne, mais celui-là, cette unité populaire a été quand même une expérience particulière à l'époque. C'était la guerre froide, il y avait d'autres expériences comme celle de Cuba depuis 59, et il y a eu ce gouvernement qui s'est mis en place, qui était une voie pacifique vers le socialisme, et pacifique et démocratique, qui a respecté entièrement la légalité et les institutions. Qui peut nous résumer un peu ces mille jours? Je sais que c'est pas facile, mais qui veut essayer de le faire? Pedro?
Brièvement,
Pedro, hein, parce qu'on a...
On va faire vite.
Non, mais allons-y.
Oui, d'abord, c'est le premier président élu. C'est la première expérience dans le monde. Tout de suite...
D'un président socialiste, marxiste.
Oui, dit marxiste. Il se disait marxiste. Oui, il avait avoué qu'il était marxiste. Donc, c'était jamais arrivé. Cuba, c'est la révolution armée. Bon, ne parlons pas de l'Union soviétique, la Chine, etc. Donc, c'est une expérience qui intéresse le monde entier. Hein. Comment s'affronter à l'impérialisme par la voie démocratique. Et tout au début, je dirais qu'il y a un grand espoir. Le peuple se retrouve. Il y a une des premières mesures d'Allende, et ça a été d'augmenter le salaire minimum d'une façon importante. Augmentation du pouvoir d'achat pour une partie de la population qui arrivait à peine à la fin du mois. Il crée le demi-litre de lait. Les enfants dans les écoles étaient sous-alimentés, ils s'évanouissaient de faim. Et dans toutes les écoles, tous les enfants ont eu droit à un demi-litre de lait tous les jours. Ce sont des petites choses, mais des choses qui ont marqué le peuple chilien. Et je dirais que c'est surtout cette joie d'imaginer que pour une fois, le gouvernement était le représentant du peuple. Qui nous représentait, moi je dirais pas nous, parce que moi j'étais dans une fraction qui était un peu critique, nous on n'avait pas voté Allende. J'étais au MIR à l'époque, et l'ordre du MIR avait été de ne pas voter Allende.
Alain Jox, comment vous résumez ces 1000 jours?
D'abord, je pense qu'il faut quand même se dire que cette élection est une élection qui comprend diverses composantes, le PC, le PS et une gauche de la démocratie chrétienne qui est très importante pour qu'on comprenne cette impression d'une victoire possible dans l'opinion. Et ça prenait la suite de ce que Frei avait appelé la révolution en liberté. Et d'ailleurs, la législation de Frei était la seule sur laquelle pouvait s'appuyer Allende, puisqu'il n'a pas pu faire passer une seule loi, sauf la nationalisation du cuivre. C'est pas rien, mais pour le reste, la réforme agraire, c'était la réforme d'Allende, appliquée dans toutes ses possibilités. C'est qu'au Chili, les lois, elles sont pas très très en détail. L'espace réglementaire d'application des lois est assez ouvert. Et par conséquent, on pouvait transformer la réforme agraire d'Allende en une réforme quasiment de Frei, en une réforme quasiment révolutionnaire par les modalités d'application, le choix des procédures, etc. C'est-à-dire que il y avait aussi dans tout ça, à la base du mouvement populaire extraordinaire qui s'est développé, il y avait l'héritage aussi d'un mouvement populaire qui avait été organisé par la démocratie chrétienne. Ils avaient en fait, pour neutraliser les mouvements de foule probablement, créé ce qu'ils appelaient les juntes de voisins, les juntas de vecinos, les juntas de madres, tout ça c'était une organisation populiste de base, et ce sont ces bases-là aussi qui se sont radicalisées et qui avaient déjà des cadres et même des habitudes probablement profondément inscrites dans la tradition populaire chilienne d'auto-organisation, de solidarité devant les difficultés de la vie. Et donc, le mouvement populaire a pris des dimensions très rapidement, très importantes. En dépit ou en dehors du programme officiel de l'UP, des limitations qui existaient du côté même du PC, et le PS étant verbalement beaucoup plus à gauche que le PC d'ailleurs, il faudrait quand même se rappeler aussi que le PS chilien n'a rien à voir avec le PS français, je veux dire comme histoire en tout cas, mais aussi comme contenu. Le PS a été créé au Chili après le Parti communiste sur une critique du bolchevisme déjà opportuniste stalinien, et voulait à la fois être exploité vraiment les possibilités du mouvement populaire chilien sur une base internationaliste, mais sans s'inspirer ni d'un modèle ni d'une discipline internationale, etc. Et ça, et en plus ils étaient putschistes au fond, assez militaristes, ils envisageaient des actions assez violentes s'il le fallait. Et il est héritier de ça. Il est aussi héritier de la tradition franc-maçonne du Parti radical, c'est-à-dire d'une vision de l'évolution du progrès qui passe par liberté, égalité, fraternité, ça voulait dire socialisme. Et le problème, c'est que tout ça fait un paquet, n'est-ce pas, un paquet très composite, mais tout de même très démocratique, et surtout accompagné d'une démocratie de base qui s'est perpétuée jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il faut quand même, pour ce qui est de la journée, moi j'étais pas au Chili à cette époque-là, j'avais trois ans de séjour au Chili, mais on avait quand même prévu ce coup déjà depuis assez longtemps. D'abord, j'avais fait un livre qui disait qu'il allait y avoir un coup d'État au Chili sur une base très très abstraite, mais je l'ai écrit en 70, et il faut dire qu'au moment du Tanquetazo en juin, c'est-à-dire le premier petit coup d'État d'essai en juin 73, nous avons en France, on s'est réunis à 12 ou 13 en disant le coup d'État va venir incessamment. On a créé un comité, on était 12 au début, et on a pu le lendemain du coup d'État louer la mutualité avec un chèque en bois, et le soir on était millionnaire, et il s'est vraiment révélé un mouvement très très important en France. Je voulais dire ça pour compléter quel a été mon jour du 13 mai. Mais alors, du 11 septembre.
Oui, oui. Pierre-Calfon, vous étiez journaliste à l'époque, journaliste du Monde, hein, à Santiago. C'est Alain Jox parle de la popularité. Quelle était la popularité de ce mouvement et la popularité d'Allende auprès des Chiliens, auprès du peuple chilien?
Elle était très grande. Elle était très grande malgré le côté Vietnam silencieux qui était devenu le Chili, selon, pour reprendre une formule que Allende a utilisée devant les Nations Unies.
Ça voulait dire quoi, le Vietnam silencieux?
Ça voulait dire que les États-Unis, il faut se rappeler que, enfin, l'expérience d'Allende est quelque chose que Marx n'avait absolument pas prévu. Aller au socialisme par la voie pacifique, démocratique, en utilisant uniquement la légalité bourgeoise en place, ça, c'était quelque chose de tout à fait insolite, et Allende avait souligné le côté original et inédit de l'expérience. Bon. C'est précisément parce que ce n'était pas la voie cubaine, le pouvoir au bout du fusil, mais la voie chilienne vers le socialisme, le pouvoir au bout du bulletin de vote, que les États-Unis considéraient cette expérience comme très dangereuse, comme beaucoup plus dangereuse encore, parce qu'elle risquait de faire tache d'huile et de contagier les pays voisins. Donc, il y a eu, dès le départ, voilà pourquoi le compte à rebours a commencé, le véritable compte à rebours a commencé sans doute le 29 juin 1973 à partir du galop d'essai qu'a représenté le Tanquetazo, le coup de tank. Mais en réalité, le véritable compte à rebours a commencé le soir même de la victoire électorale d'Allende, le 4 septembre 1970.
Pierre Calfon, ça vous le dites aujourd'hui, 30 ans après, à l'époque, vous le saviez tout ça ? Comme journaliste, et après on demandera à nos amis chiliens si eux à l'intérieur savaient tout ça. Mais d'abord vous, comme journaliste correspondant du Monde à Santiago, est-ce que bien sûr maintenant
non, mais à l'époque j'avais déjà eu des confessions de camionneurs en grève qui me disaient on reçoit plus d'argent pour faire la grève que lorsqu'on travaille. Et d'ailleurs au moment de la grève des camionneurs, le prix du dollar au marché noir avait baissé. Parce que les États-Unis avaient inondé le Chili de dollars. Mmh. D'autre part, les Chiliens eux-mêmes avaient dénoncé le complot de l'ITT, International Telegraph et Téléphone. Mmh. Comment il s'appelait, Jack Anderson, qui avait fait toutes ces révélations dans le Washington Times, dans le Washington Post, je veux dire. Donc, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose. Mais c'est seulement lorsque les documents de la CIA ont été déclassifiés qu'on a commencé à avoir les preuves de ce que l'on n'avait l'intuition.
Les Chiliens, qu'est-ce que vous saviez, vous qui étiez dans le pays à ce moment-là? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ce que voulait la CIA? Est-ce que vous saviez ce que voulait Nixon, ce que préparait Kissinger, ce que voulaient les multinationales par rapport à votre pays?
Tout à fait.
Patricio Tupper.
Tout à fait. Et déjà en 1964, la CIA avait organisé la campagne de la terreur et avait financé justement les journaux. Il avait monté une campagne extraordinaire des chaos marxistes qui allaient venir avec Allende. Mmh. Et ils ont soutenu le candidat démocrate chrétien Frei. Mmh. Frei avait un programme de réformes sociales, en liberté comme il disait, qui n'allait pas trop loin et qui a dessus. Et Allende n'avait pas véritablement une grande force au début. Et le fait est qu'il n'ait gagné l'élection qu'avec 33,6% de la population.
En 70.
En 70. C'était une nouvelle campagne de la terreur, en 70, qui était montée contre lui. Mais cette campagne n'a pas marché, justement parce qu'on savait qu'il y avait des financements extérieurs de la CIA qui avaient été dénoncés pendant entre 64 et 70. Les jeunes du parti communiste et ont monté une opération pendant justement la campagne. Ils sont arrivés à l'agence Andalienne. Cette agence était financée par la CIA et par les propriétaires des mines du cuivre, qui étaient donc des entreprises américaines. Les mêmes entreprises qui viendraient aller s'attaquer justement dans son programme. Et là, on a découvert qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Charlie, qui était l'agent des liaisons entre cette agence de communication et la centrale d'intelligence américaine. C'est à partir de là qu'on commence déjà à savoir que la CIA est directement impliquée. Il y a un procès au Chili autour de ça. Il y a eu une commission d'enquête de la Chambre des députés, et c'était le président, le Bernardo Leyton, l'ancien vice-président du Chili, et ministre de l'Intérieur, et qui a été par la suite à Rome et attaqué par les sbires de Pinochet. Cette commission d'enquête va dévoiler effectivement qu'il y a eu une intervention étrangère et qui est Charlie. À l'époque, on ne savait pas qui était, mais on supposait que Charlie était l'agent de la CIA. Le moment, en 1974, que la commission de Church organise une première commission d'enquête sur les interventions de la CIA au Chili. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, on commence à dévoiler ces noms et l'intervention. L'argent, par exemple, qui a été dépensé par la CIA, 13 millions pour la communication dont vient de dire Pierre, 2008, une période de 71, pour le Mercurio. Mais c'est à ce moment-là que la commission de Church révèle et confirme par des documents que les Américains sont intervenus directement dans les médias chiliens.
Eduardo Olivares, qu'est-ce que vous saviez de l'intérieur du pays sur les...
On savait ça, mais ce qui est important aussi de dire, c'est que on dit souvent, faut pas oublier qu'on était dans un contexte de guerre froide. Le contexte de guerre froide, c'était effectivement les États-Unis, et on savait ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient fait, mais c'était aussi les autres. Et là aussi, je crois qu'il y a des choses à dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser non plus que le Chili était combattu, boycotté par les États-Unis parce que les autres, ils étaient complètement dedans. C'est pas du tout vrai cela. Et je crois qu'il y a des épisodes qui sont très clairs, notamment une tournée que le président Allende a fait pendant les derniers mois de son gouvernement à l'Union soviétique, à Moscou, en compagnie du secrétaire général du Parti communiste chilien, pour essayer d'expliquer aux soviétiques la pénurie qui frappait le Chili, due au boycott, et faisait que le Chili avait une situation très difficile et qu'il avait besoin d'un coup de main, concrètement. Bon, ce coup de main, il n'a pas été donné. Donc, on n'était pas forcément non plus dans une situation d'inconditionnalité. C'est vrai que les Cubains ont fait beaucoup de présence, mais Cuba n'était pas mieux loti que le Chili, surtout en matière économique. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il est important de se rendre compte de cela. Et Allende, quand il revient au Chili avec Corvalán, c'est quelqu'un qui est très inquiet. Et moi, j'ai eu l'opportunité de participer à une réunion où il a rendu compte de l'échec de ses voyages. Et c'est là où on s'est aperçu que les grands frères soviétiques, il était quand même regardant sur ses sous. Que bon, il était sympa. Je vous souhaite bon sens, mais démerdez-vous si je peux me permettre.
Mais ce qui est hallucinant dans le livre de Patricio Tupper là sur Allende, qui s'intitule Allende et la cible, les médias chiliens et la CIA de 70 à 73, c'est la manipulation extraordinaire des médias, notamment, bon, vous citez le Mercurio, mais c'est l'ensemble des médias qui sont complètement achetés.
Oui, mais c'est le problème de toute l'Amérique latine. Les moyens de communication ont toujours été entre les mains de la bourgeoisie. Au Chili, il y avait un journal qui était El Clarín, qui était un journal populiste, hein, et qui avait une certaine tendance. Et après, il y avait les documents plus théoriques, et, qu'ils soient du PS, du PC ou du MIR, qui faisaient des analyses plus approfondies. Mais la grande presse était entre les mains de cette fameuse famille Edwards, hein, et propriétaire de Mercurio, et de tout un tas d'autres journaux et radios. Et je crois que c'est là où il faut qu'on se souvienne aussi que Allende, dans cette tournée dont parlait Olivares, il est passé par la France. Comme d'autres gouvernements après, entre autres, je pense aux sandinistes, sont venus en France demander de l'aide parce qu'ils voulaient pas être en dépendance des États-Unis ni de l'Union soviétique. Et la France et l'Europe n'a jamais voulu s'impliquer, juste comme information pour consensuel. La France a filé trois petits bateaux pour surveiller la côte nicaraguayenne. Pour le Chili, il n'y a eu que dalle, rien. L'Union soviétique, qu'est-ce qu'elle a apporté? Il a apporté un gros bateau pour aller à la pêche et congeler le poisson qu'on vendait pas cher au Chili, hein, vous vous en souvenez. Et il a implanté une usine de construction des bâtiments qui a permis de créer un certain nombre de logements très rapidement. Mais c'est tout. Hein, et on était, par contre, pour revenir au problème, si on savait, on ne savait pas. J'ai dit, on ne savait pas tout en sachant quand même. Le blocus des États-Unis commence tout de suite.
En 70?
Ah, tout de suite après. Hein. Oui. Et il y a des documents qui disent que déjà en 69, une rencontre entre des militaires chiliens et des militaires du Pentagone dans la banlieue de Washington ont décidé que si jamais était élu, il serait débarqué et la moneda serait attaquée.
Alain Jox, vous êtes d'accord avec ça? Cette connivence des militaires américains, des États-Unis et du Chili?
Oui, mais les systèmes ne sont pas forcément décisifs. C'est-à-dire qu'une armée, il faut qu'elle s'emmue. Et il y avait une forme de d'inertie officialiste dans l'armée chilienne. Il faut pas négliger ça. Le général Schneider, que j'ai très bien connu, était un démocrate chrétien, tout à fait légaliste. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a été assassiné. N'est-ce pas? Il a été nommé, ministre de la Défense au lendemain d'un premier mouvement militaire qui s'est passé, ce qu'on appelait le Tancasso, qui s'est passé sous Frey, et qui était un mouvement qui était un mouvement de miséreux, parce que l'armée chilienne était pauvre à pleurer, si je puis dire. Ils ont fait une grève avec occupation de leur usine, qui était une caserne. Et alors, quand on fait grève au Chili, on met le drapeau, mais bon, dans une caserne, il y en a toujours un. Alors, pour montrer qu'elles étaient en grève, parce que ça se voyait pas, ils ont fait sortir un tank, et le tank est tombé en panne, faute de pièces, sous le porche. Alors ça s'est transformé en une espèce de lieu de discussion, où tout le monde allait les visiter. Voilà, c'était ça l'armée chilienne à la fin de Frey. Et Frey a fait un effort parce qu'il a renforcé le budget, qui d'ailleurs a provoqué une inflation. Mais les militaires n'étaient pas vraiment putschistes à ce moment-là. Et d'ailleurs, ensuite, on voit bien que Allende lui-même a su assez habilement, plusieurs fois, disons, mettre l'armée au service de son gouvernement, y compris dans la grande grève de fin des années 72, là, si je me souviens bien. Il a fait monter au filet un certain nombre de militaires. Le général Bachelet était ministre du ravitaillement. Il a organisé le ravitaillement populaire comme un militaire organise l'intendance pour que les troupes n'aient pas faim, et des choses comme ça. Et donc, il y avait toujours cette espèce d'équilibre qui est peut-être pas complètement ruiné. Alors, c'est le complot, évidemment, américain, et le complot au sommet d'un certain nombre d'individus, c'est déterminant. Et puis, également, la grande responsabilité de la démocratie chrétienne, qui a mis tout en œuvre pour que le pouvoir non majoritaire, mais néanmoins élu d'Allende, soit considéré comme un pouvoir illégitime. Ils ont procédé à des votes solennels pour essayer de faire l'impeachment d'Allende. Ils ne pouvaient pas le faire, mais quand même, ils ont voté des choses. Et ça a été probablement déterminant pour une partie de l'armée. Et donc, toutes ces choses-là, vous voyez, montrent que c'est pas forcément toujours un succès immédiat quand on arrose avec des dollars une armée. Ça peut être, ça peut ne pas être, et il y a quand même une part de manœuvre. Je pense qu'Allende s'est bien défendu comme il a pu contre ce qui était ce danger militaire. C'est certain qu'il l'a connu.
Oui, il s'est défendu comme il... Oui.
Oui, d'autant plus que dans le cas de l'armée de terre notamment, il faut dire que traditionnellement, l'armée de terre était méprisée par la bourgeoisie sicilienne. C'était les enfants qui n'avaient pas réussi, les cancres éventuellement de la bourgeoisie qu'on envoyait à l'armée un peu pour le redresser. Mais hormis la marine au Chili, les autres, c'était le lieu de travail des classes populaires. Donc ce qui est étonnant et ce qui est curieux, c'est comment cette intervention, cette manipulation et le fait du professionnalisme, donc cette obéissance aveugle de l'armée au chef, a fait qu'une armée qui était plutôt populaire et méprisée s'est retrouvée du jour au lendemain transformée dans le garde-chaume des intérêts les plus réactionnaires du Chili.
Quelle résistance après il y a le coup d'État, on a l'impression qu'il n'y a aucune résistance. Tout le monde se couche, tout le monde se tait.
Tout le monde, pas tout à fait.
Pedro Tapia, il faut rappeler que vous étiez militant du MIR, oui, pour ce qui vous concerne.
Mais on n'avait pas des armes. C'est ça qui est terrible.
C'est-à-dire, il faut rappeler ce qu'était le MIR.
Oui, c'était le mouvement de la gauche révolutionnaire, une organisation politico-militaire.
Voilà.
Mais on n'avait pas des armes, sauf un petit groupe qui était l'organisation militaire, hein, pas la politico-militaire, l'organisation militaire du MIR. Comme il y avait des groupes armés, des petits noyaux OPS, OPC, qui se sont affrontés. Et Olivier le rappelait, ou je me rappelle plus où c'est toi, qui est du haut du ministère des Travaux Publics, il y a des camarades qui tiraient et qui ont empêché le tank d'écraser ceux qui avaient quitté la Moneda. Ça veut dire qu'il y avait quelques armes. Mais 4 fusils pour s'affronter à des avions, à des tanks, etc. C'était vraiment, j'ose dire aujourd'hui, jeu d'enfant. Hein.
Pedro, est-ce que ça, et vous tous, est-ce que ça montre que la voie pacifique est impossible? Est-ce que c'est l'échec de la voie pacifique du passage au socialisme, ça? C'est un sujet de conversation depuis 30 ans.
Non, quel est le problème?
Patricio, tu peux.
Oui. Je vais continuer un peu le raisonnement d'Alain Jorge. C'est qu'il disait, effectivement, et de Olivares, ce sont les secteurs des couches moyennes qui ont basculé. Et c'est ça la question. Il y a eu une guerre psychologique pour essayer de créer, de dissocier les secteurs moyen de la population, et notamment les militaires, les secteurs, professionnels, cadres, qui avaient suivi le mouvement de 73. Mmh. Allende à 33,5%, quelque chose comme ça, mmh. Et c'est comme ça qu'il va être élu. Et 3 années plus tard, les élections de mars, il y a 44%. Il y a donc un mouvement. Mais c'est un mouvement qui ne suffit plus d'un point de vue de l'action politique, parce qu'il y a une guerre psychologique qui va créer les conditions d'un étouffement, d'une angoisse, de la peur. Et c'est ça l'intervention, par exemple, financière et technique de la CIA par rapport à ça. Donc ce sont les couches moyennes, les secteurs moyens qui vont se détourner en définitive, qui vont avoir peur, qui sont les maîtresses des maisons, ce sont les commerçants, ce sont les transporteurs, par exemple les transportistes, les grands mouvements, et puis qui vont embrasser cette idée d'Allende ne peut plus continuer parce que ça nous mène à la dictature.
Une nouvelle diffusion de Salvador Allende le 11 septembre 1973. Un entretien avec Alain Jox, Pedro Tapia, Eduardo Olivares, Pierre Calfon et Patricio Tupper pour l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. À lire, Allende, la cible des médias chiliens et de la CIA, un livre de Patricio Tupper aux éditions de L'Armandier. Toutes ces informations sont disponibles bien sûr sur le site de franceinter.com à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site www.la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Eric Minviel et Dimitri Gronoff. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyen Guyen, assistée de Pascal Pascariello, et le chef du répondeur est Christophe Imbert. Vous pouvez lui laisser vos messages au 01 56 40 37 37. Je répète, 01 56 40 37 37.